Section 2. Cependant, mon frère, étant, comme je l'ai dit, rentré tout à fait à la maison, on jugea à propos de lui donner un précepteur particulier, et pour lui éviter l'humiliation d'avoir un frère beaucoup plus jeune et beaucoup plus instruit sous les yeux, on se décida à me faire quitter le domicile paternel et à me mettre en pension. C'était d'ailleurs un bon moyen de se débarrasser, ne fût-ce que pendant un temps, d'un enfant importun et désagréable. Je fus envoyé d'abord à la pension de l'enfance, à la Croix-Rousse, pour ainsi dire aux portes de Lyon. Mais, comme étant si près, on aurait eu trop mauvaise grâce de ne pas me faire venir parfois à la maison les jours de congé, on voulut encore se débarrasser un peu mieux de moi, et on me fit partir pour le collège de Saint-Chamond, à 12 lieues de Lyon. L'annonce de ce départ ne me fit aucune peine. Je n'aimais plus mes parents, je le croyais du moins. Cependant, au dernier moment, ma mère retrouva pour un instant son cœur de mère et m'accabla de caresses. Elles me firent du bien et du mal. Quant à mon père, nous vivions déjà à peu près ensemble, sous le rapport des démonstrations amicales, comme deux étrangers. Ce fut tout au plus, il m'embrassa. Cependant, il m'aimait, je le sais, mais, outre qu'il me préférait aussi mon frère, il avait encore d'autres raisons pour garder son décorum avec moi. On les connaîtra bientôt. Le long de la route, je fus assailli par des idées bien tristes. Pouvais-je, en effet, me voir pour la première fois exilé, si loin de ma famille, sans éprouver des pressentiments pénibles sur ce qui m'était réservé? Si mes propres parents me maltraitent ou me négligent, dois-je raisonnablement espérer plus de soins et de bonté de la part des étrangers qui n'ont d'autre intérêt à me porter que celui de l'argent qu'ils reçoivent pour moi? Heureusement, ces craintes étaient mal fondées. Je fus accueilli d'une manière tout à fait paternelle par le directeur du collège de Saint-Chamond, qui était un aussi brave homme que je pouvais le désirer. De sorte que je me convenais beaucoup mieux dans cette institution que dans le sein de ma propre famille. Et lorsqu'un enfant se trouve dans cette position, soyez certain que ce sont ses parents et non lui qui ont tort. Je ne pourrais dire au juste pourquoi mes sensations premières se modifièrent beaucoup pendant le cours de cette première année passée à Saint-Chamond. Cela vient probablement de ce qu'oubliant un peu ma famille, et me voyant bien accueilli et bien traité par mes nouveaux camarades, je perdis un peu de ma misanthropie et par conséquent de mon caractère observateur. Car remarquez bien qu'en général, si les malheureux sont des observateurs un peu trop partiaux et disposés à voir tout en mal, les gens heureux n'observent guère, ils se laissent vivre. Toutefois, cette année où je me laissais moins dominer par mes sensations intérieures ne fut pas perdue pour l'étude. Au contraire, je fis de rapides progrès parce que j'y employais toutes mes facultés. J'eus 4 prises à la fin de l'année. C'était la première fois que j'allais être couronné, car jusqu'alors je n'avais jamais suivi une classe en entier. Vous qui m'accusez d'amour-propre, qui croyez que j'ai visé à l'effet, vous pensez sans doute que je fus au comble de la joie. Nullement. Des prix à moi, des couronnes, des triomphes, et devant qui? Devant des personnes qui ne me portaient aucune affection, qui ne s'intéressaient pas à moi, qu'importait? Ah, si ma mère eût été là pour me poser la couronne sur la tête. Aussi souriais-je de pitié en entendant notre bon directeur répéter les célèbres paroles de Villard. Des succès, on en désire lorsqu'on peut les partager avec un ami ou en jouir au moins devant lui, parce qu'on est certain qu'il les voit avec plaisir. Voilà comment j'ai toujours conçu l'amour propre à cet âge-là. On verra bientôt également que j'en ai eu un autre et d'une nature bien différente. Les vacances étaient arrivées et, suivant les usages établis, je retournais au sein de ma famille. J'arrivais précédé des renseignements les plus favorables sur ma conduite et avec des preuves évidentes de mon assiduité au travail. Mon père me reçut très bien, mais moralisant toujours comme un poète de comédie, et ma mère sembla s'être dépouillée en ce moment de toutes ses préventions contre moi. Elle m'embrassa en versant des larmes, me pressa sur son sein en me couvrant de 1 000 baisers. Je joignais mes larmes aux siennes sans pouvoir articuler aucune parole. Ah, c'est le seul vrai moment de bonheur pur dont j'ai joui. Ne suis-je mort ce jour-là? Il est certain que si ma mère m'eût continué ses marques de tendresse, elle eût changé son existence et la mienne. 4 jours après, tout était rentré dans l'ordre accoutumé, c'est-à-dire injustice de la part de ma mère et indifférence de la mienne. Je dois pourtant dire ici la vérité. Je pense, d'après ce que j'ai observé depuis, que ma mère eût été assez disposée à m'aimer si mon caractère eût changé. Mais le coup était porté chez moi. Je n'étais plus un enfant, surtout de ces enfants sémillants et toujours disposés aux caresses. Peut-être que quelques marques d'amour filial m'eussent alors ramené le cœur de ma mère. Je me repens bien sincèrement de n'avoir pas essayé. Mais j'étais trop fier. J'aurais eu trop peur de perdre mes avantages. Ça a été mon plus grand vice. Peu d'hommes ont été aussi sensibles que moi à une humiliation de ce genre. Pour offrir mon amitié à quelqu'un, il fallait que je fusse bien certain qu'elle serait acceptée. Peut-être même faut-il attribuer les excès auxquels je me suis porté, aux humiliations que j'ai éprouvées en cherchant à ne pas me mettre en hostilité avec la société. Elles m'ont été tellement sensibles que mon mépris s'est changé en haine bien prononcée. Étrange contradiction de l'esprit humain, direz-vous. Vous vous piquez de fierté, vous dites que les humiliations vous pèsent, et vous avez affronté les regards du public qui se sont portés sur vous comme sur un épouvantable scélérat. 2 fois, j'ai comparu sur les bancs de la police correctionnelle, couvert du rouge de la honte, et je n'ai pas rougi un instant à la cour d'assises. Comprenez-vous maintenant? Non, non, vous ne comprenez pas, j'en suis sûr. Vous pensez que je préfère l'horreur et la haine au mépris, et c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui m'a donné de l'aplomb à l'audience. C'est parce que horreur, haine, mépris n'étaient rien pour moi. C'est parce que je me suicidais. Mais je m'écarte, revenons. À la fin des vacances, je repartis pour Saint-Chamond, où je devais encore passer 2 ans. C'est à cette époque que commença mon instruction morale par mes premières études de l'histoire ancienne. Que d'horreur, d'injustice n'y trouvais-je pas? Et presque toujours justifié par le succès. Que sont donc les hommes, me disais-je? Avec qui suis-je donc destiné à vivre? Jusqu'ici, je n'ai vu que de petites injustices dont j'ai été la victime, il est vrai, mais enfin, que l'on peut dédaigner avec un peu de philosophie et d'insensibilité. Mais que deviendrais-je si un jour j'étais appelé à jouer un rôle sur la scène du monde? Que vois-je dans l'histoire que j'étudie, bourreaux et victimes? N'ai-je donc qu'un de ces deux rôles à choisir? Je reviens au pessimisme et à la misanthropie. Je méprisais même l'humanité à un tel point que j'aurais abandonné tout à fait le désir de m'instruire. Et si j'y revins, ce ne fut que par égoïsme et pour mon plaisir particulier. Bien que l'éducation de collège ne fût pas non plus essentiellement religieuse, on ne la négligeait cependant pas à cet égard. Outre les exercices ordinaires dans les institutions, nous avions encore souvent à écouter les prédications et déclamations des orateurs chrétiens de différentes églises, où l'on nous conduisait quelquefois, surtout pendant le temps du carême, et cela au grand ennui de mes jeunes camarades, mais non de moi, non. J'étudiais et j'observais toujours. Jusqu'ici, on a pu le voir, non seulement je n'avais aucune idée de religion, mais je ne croyais presque pas en Dieu. Pour croire, il m'eût fallu m'en faire une toute autre idée que celle que l'on avait cherché à m'en donner. Je ne pouvais pas, comme on l'a vu, croire au Dieu de mes parents. Je disais alors, comme le Christ, Affectibus eorum, cognoscitiseos. Et quel fruit rapportait ce Dieu-là? Je cherchais à me baser davantage et à approfondir l'idée de la divinité. Je lus d'abord l'Évangile avec attention. De bonne foi, je pense que c'est une sublime création, mais tel qu'il a dû être écrit, et non tel que nous l'ont transmis quelques auteurs, qui ont dû le faire plier, soit dans le texte même, soit dans les interprétations, à toutes les exigences, non de la faiblesse des hommes, mais de leurs propres intérêts. L'Évangile, c'est, je l'avoue, la plus belle morale, la plus pure, la plus dépouillée d'égoïsme. Le Christ cherchait à établir une religion qui fît le bonheur de l'humanité, mais qu'en ont fait les hommes de cette religion? Lisez les pères de l'Église après l'Évangile. Après les pères de l'Église, lisez l'histoire des conciles. Lisez encore l'histoire de quelques successeurs des apôtres. Et arrêtez-vous à la Sainte-Barthélemy. Oui, j'en conviens. Si l'homme eût annoncé à un Dieu ami de la tolérance en fait de culte, ne demandant à l'homme que le bonheur de son semblable, j'y aurais cru. Mais notez-le bien. Seulement par sentiment et non par raisonnement, car le raisonnement serait arrivé plus tard et aurait tout enlevé. Et qui sait s'il eût enlevé en même temps le dogme avec la morale? Car remarquez-le bien, aucune religion ne peut exister sans mystère, c'est-à-dire sans que l'homme ne fasse abnégation de son propre raisonnement. Toute religion peut être contestée, ceci est un fait. Il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour ne le nier. Or, lorsque vous aurez prouvé à un néophyte la fausseté de ses dogmes, qu'il en sera convenu avec vous, n'est-il pas à craindre que, confondant les dogmes avec la morale, il ne vienne à conclure que... Ici, deux lignes censurées. Exemple. Dites à un pauvre ouvrier catholique de bonne foi, mon ami, comment pouvez-vous croire à une religion qui vous enseigne que Dieu perd à jamais ceux qui n'ont pas le bonheur d'y être nés ou même d'y en avoir jamais entendu parler? Dieu peut-il damner Platon, Socrate et bien d'autres gens vertueux qui ont été dans l'impossibilité de connaître sa loi? Si cet homme écoute sa raison, il vous répondra: non, c'est impossible, Dieu ne serait pas assez injuste. Que si vous venez par un suite de semblables raisonnements à le convaincre que sa religion, trois lignes censurées, de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il vous fût fait, n'est-il pas également, trois lignes censurées, et que cependant, telle est la faiblesse de l'esprit humain, qu'il est dangereux de l'attaquer? Une ligne censurée, destinée à voir de semblables commotions. Il en est de cela comme des révolutions politiques faites en l'honneur des princes. Elles nuisent à tous sur le moment, et plus tard, elles finissent encore par être détournées de leur véritable route par des intrigants. C'est l'histoire de tous les siècles. Quand viendra le temps où les hommes... Bon, jamais. Parce qu'ils ne seront jamais parfaits, parce qu'il y aura toujours des gens disposés à tirer parti de leur faiblesse, parce que l'homme se décidera difficilement à faire le bien sans espoir de récompense, et simplement pour le plaisir de le faire. Mais qu'on se persuade bien qu'il n'y a rien d'aussi dangereux pour la société que les commotions religieuses et les attaques portées aux croyances. Ce qu'il y a à gagner sous le rapport de la diminution de l'influence du clergé est trop bien compensée par la démoralisation de l'espèce humaine à qui il faut un frein, quoi qu'on en puisse dire. Je viens d'analyser ici toutes les idées qui me surgissaient au cerveau pendant les sermons de Saint-Chamond. Elles sont encore fraîches à ma pensée parce que, depuis longtemps, je me suis amusé à réfléchir sur ces matières-là. Beaucoup de personnes auront peine à croire que ce soit les réflexions d'un enfant de cet âge. Je ne peux répondre que deux mots. Cela est. Cependant, je venais de passer deux autres années au collège. D'après les idées auxquelles je me livrais spécialement, on doit penser que je n'attachais pas autant d'importance à l'étude du latin. Je ne la négligeais pourtant pas entièrement, mais je m'y livrais avec trop peu d'ardeur pour obtenir des succès brillants. Cependant, je ne laissais pas que d'avancer toujours. J'avais trop de facilité pour qu'il n'en fût pas ainsi. J'étais toujours allé passer mes vacances à la maison. J'y revins encore au bout de cette troisième année, et je comptais bien y retourner encore. Il ne devait pas en être ainsi. Étant à Saint-Chamond, je m'étais procuré, je ne sais plus comment, un livre contenant l'exposé des dogmes de la religion réformée. J'aurais également peine à dire de quel auteur. Je le lus avec avidité et demeurai convaincu à peu près que si toutes les religions... Trois lignes censurées. Un jour, dans une conversation d'épanchement avec un de mes camarades, nous entretenions sur des sujets de cette nature. Je lui fis part de mes convictions en ajoutant que si l'on était malheureusement obligé de suivre une religion dans le monde, je choisirais de préférence la religion protestante, attendu qu'elle me paraissait d'une bien plus grande simplicité. Mon camarade, sans être à ma hauteur, loin d'être scandalisé d'une semblable profession de foi, y applaudit et n'en divulgua rien pour le moment. Cependant, il en arriva plus tard quelque chose de mortifiant pour moi, ou plutôt pour mes parents. Ce jeune homme était allé en vacances chez son père, qui demeurait également à Lyon. Un jour, j'ignore à propos de quoi, il s'avisa de lui répéter les propos que je lui avais tenus sur les deux religions. Son père, M. P., homme pour le moins aussi bigot que le mien, fut effrayé d'une semblable incartade et lui demanda qui pourrait lui avoir inculqué d'aussi abominables principes. Il insista tellement sur ce point que ce pauvre diable, poussé à bout, ne put moins faire que de lui découvrir que c'était moi qu'il avait ainsi indoctriné. Il ajouta même que je lui avais assuré qu'aussitôt que je serai mon maître, j'abjurerai la religion catholique pour me faire recevoir dans l'Église réformée. Ceci était faux, comme on a dû le remarquer. Forcé comme contraint, je n'aurais pas hésité, il est vrai, à me faire protestant. Mais le cas n'existant pas, j'estimais trop peu toutes les religions pour penser que l'une valut d'être troquée contre une autre. C'eût été de ma part une œuvre sans conviction et d'hypocrisie purement gratuite. Quoi qu'il en fût, M. P., furieux à cette révélation, écrivit au directeur du collège de Saint-Chamond pour lui faire part de ce qu'il venait d'apprendre et lui annoncer la ferme résolution où il était de ne pas y renvoyer son fils, ne voulant sous aucun prétexte qu'il habitât la même maison et respirât le même air qu'un impie tel que moi. J'avais oublié de dire que la direction du collège de Saint-Chamond était passée en d'autres mains. Le premier, le meilleur homme du monde que l'on put voir, était un véritable précepteur, comme on le rencontre peu maintenant, faisant son devoir en conscience et ne cherchant pas précisément un vil bénéfice dans la plus auguste des fonctions qu'il soit donné à l'homme de remplir. Son remplaçant n'était certainement pas un méchant homme, mais pour lui, son institution était une véritable affaire de négoce. Sauf ce défaut, c'était aussi un des plus estimables ecclésiastiques que j'ai connus, et j'en ai connu beaucoup. Un mot à cet égard, car je ne voudrais pas être accusé de partialité et de prévention dans le jugement que je porterai tout à l'heure sur une certaine partie du clergé. J'aurais peur qu'on y vît le résultat de mon esprit d'irreligion. Je suis juste, j'ai du moins la prétention de le croire. J'avoue donc ici que, quoique je n'aie jamais eu aucun sentiment de religion, j'ai beaucoup d'estime en général pour le clergé français. C'est la plus belle partie de la population. C'est chez nos ecclésiastiques qu'on retrouve le peu qui reste de vertu sur la terre. Notez bien qu'encore que je ne parle pas ici des jésuites, ni de tous les intrigants pour lesquels la religion n'est qu'un moyen de parvenir. Ceux-là, c'est ce qu'il y a de pire, ils sont capables de tout. Non, je parle de ces bons curés de campagne, attachés à leur devoir par conviction, quoique leur conviction sur les dogmes ne soit peut-être pas aussi inébranlable qu'ils voudraient bien le faire croire. Mais pourquoi leur en faire un crime? Lors même que leurs croyances ne seraient pas aussi fermes qu'on aurait le droit de s'y attendre, d'après leur profession, pourquoi les en accuser? Lancés dans cette carrière presque sans l'avoir désirée, et n'ayant de vocation que celle que leur inspirait la famille, ils ont dû faire plier leur raison naissante devant des autorités plus imposantes. Il y a déjà eu là une espèce d'humilité. Et plus tard, si le raisonnement détruit ces convictions de sentiment, quel beau dévouement trouvez-vous en eux? Quelle abnégation de toutes les jouissances de la vie pour ne pas apostasier et causer du scandale. Et vous viendrez ensuite leur reprocher quelques défauts qui sont inhérents à leur position, à leur manière de vivre forcée. Sont-ils donc des êtres d'une autre nature que la nôtre? Peuvent-ils être parfaits? Pourquoi donc, philosophe, les envelopper dans le mépris que vous avez pour la religion? Quant à moi, je ne pense pas qu'on puisse jamais rencontrer de plus digne ministre qu'une grande partie de ceux que j'ai trouvés sur mon chemin. Mais me direz-vous, il y a hypocrisie dans leurs faits s'ils ne croient pas à la parole qu'ils annoncent. C'est possible, mais lorsqu'il faut choisir entre l'hypocrisie et le scandale, l'hypocrisie a bien son mérite. D'ailleurs, quelle hypocrisie est celle qui consiste à annoncer une belle morale? Heureux celui qui le persuade, plus heureux ceux qui l'entourent. Oh, si j'avais pu croire, cet exposé de principe de la part d'un homme qui est forcé de convenir qu'il n'a jamais pu croire à rien, empêchera sans doute de soupçonner ma franchise dans ce qui va suivre. D'après la lettre de M. P, le directeur de Saint-Chamond jugea le cas assez grave et assez urgent pour nécessiter sa présence sur les lieux. Il fallait choisir entre deux exclusions s'il ne parvenait pas à une conciliation. Il espéra en venir à bout. On va voir comment il y réussit peu. À son arrivée à Lyon, il fit voir immédiatement M. P. en sa qualité de demandeur. Il chercha à le ramener à des idées moins hostiles, et avec d'autant plus de persévérance et de chaleur que ceci était pour lui une question d'argent. On doit donc juger du soin qu'il apporta à cette négociation, puisque d'une part il tenait à conserver ses deux pensionnaires, et que de l'autre il craignait également d'indisposer M. P, qui aurait pu se plaindre de lui. Et mon père, qu'il savait très bien vu des membres de la Sainte Congrégation, circonstance qui pouvait le rendre très dangereux pour un chef d'institution. M. P lui répéta de vive voix tout ce qu'il lui avait écrit, et lui réitéra aussi l'assurance de la résolution inébranlable où il était de ne pas renvoyer son fils au collège si j'y étais reçu désormais. Il fut donc obligé, bien malgré lui, de donner raison à M. P. qui sans cela n'eût pas manqué de proclamer dans la ville que le collège de Saint-Chamond était un véritable foyer d'impiété. La difficulté était alors de faire tout doucement avaler la pilule à mon père. Il arriva à la maison avec une de ces figures dolentes à laquelle je jugeais qu'il y avait quelque chose de nouveau. Pourtant, j'ai la curiosité d'écouter à la porte pour voir ce qu'il en était et si sa physionomie ne m'avait pas trompé. Une fois enfermé avec mon père, il débuta par quelques paroles de condoléances auxquelles mon père ne pouvait rien comprendre. Il lui dit qu'il plaignait sincèrement des parents si vertueux, si attachés à la religion et qui avaient le malheur d'avoir des enfants qui répondaient si mal aux bons exemples qu'ils trouvaient à cet égard dans leur famille. Forcé de s'expliquer plus amplement, il finit par lâcher le grand mot et put raconter ce qu'il venait d'apprendre chez M. P. Jugez quelle furent la fureur de mon père et la douleur de ma mère à cette terrible révélation. On me fit appeler, je n'étais pas loin, j'avais tout entendu. Aussi, loin de m'intimider, j'assurai qu'il était bien possible que j'eusse tenu une partie de ses propos, attendu qu'en effet la religion protestante me paraissait préférable à la religion catholique. À ces mots foudroyants, mon père fut sur le point de perdre la tête et de se jeter sur moi. Je ne sais même pas comment aurait fini cette scène, avoir la rage qui l'animait et s'accroissait par degrés. Si, pour détourner l'orage de dessus ma tête et le faire tomber sur celle d'un autre, je n'avais eu la malice infernale d'ajouter que je n'étais pas le seul de ses élèves qui professa une pareille doctrine, que j'en avais beaucoup entendu tirer les mêmes raisonnements par suite des lectures qu'ils avaient faites. Ma ruse me réussit au-delà de mon espérance. Mon père, sans plus faire attention à moi, reporta toute sa colère sur le pauvre directeur qui ne savait plus où se mettre et dont la figure piteuse m'amusait beaucoup. Il lui fit de violents reproches, l'accusa à son tour de mon irréligion pour n'avoir pas veillé sur les livres qui se lisaient dans son institution. Bref, l'affaire se termina aussi mal que possible pour monsieur le directeur du collège de Saint-Chamond. Car lorsqu'il retourna chez monsieur P, celui-ci lui signifia que pour rien au monde, sous aucun prétexte, il laisserait son fils remettre les pieds chez lui. 2 jours après, il retourna chez mon père pour proposer de me reprendre. Il en fut mal accueilli. Le lendemain même de cette aventure, mon père n'avait rien eu de plus pressé que d'aller en rendre compte à la Sainte Congrégation des Jésuites, dont le principal foyer était alors chez M. M., négociant de Lyon. Ce fut là qu'il alla évaporer sa bile et rendre compte de la teinte qui avait été portée à la religion dans le sein même de sa famille. La liaison de M. M. avec mon père a exercé trop d'influence sur lui et par conséquent sur moi pour que je n'en dise pas quelques mots. C'était un homme sans conscience et sans probité dans son commerce et qui, dans une vue d'intérêt, s'était posé comme point de réunion et de ralliement entre tous les jésuites à longue et courte robe de la ville. C'était chez lui que se trouvaient tous les furibonds apôtres de la doctrine ultramontaine. Sa maison était un perpétuel conciliabule de tout ce qu'il y avait de fanatique, déclarant sans cesse contre la démoralisation du siècle et l'indifférence en matière de religion. Il y avait dans ce club catholique, comme dans toutes les associations humaines, des dupes et des fripons. Mon père était dans le nombre des premiers. Tout ce qui portait soutane était pour lui un objet sacré et inviolable, à moins pourtant que ce ne fût quelque pauvre ecclésiastique trop tolérant qui ne fût voué à sa haine par le concile M. Quant à tous les autres, il les soutenait envers et contre tous. Et, sous peine d'exciter son indignation, il n'aurait pas fallu lui dire que Mingrat était un brigand, vous aurez répondu avec la meilleure foi du monde que c'étaient les ennemis de la religion et les buveurs de sang de 93 qui faisaient courir ces bruits-là. Aussi était-il parfaitement vu par toute la sainte congrégation. Pendant ce temps-là, M. M. ne négligeait pas de vendre ses coquilles le plus cher possible, je vous assure. Enfin, il faisait, comme l'on dit, sa petite affaire. Car c'eût été un acte d'impiété de la part du plus petit initié de la bande d'aller se fournir partout ailleurs que dans son magasin, et même de ne pas y envoyer ses amis et connaissances pour la plus grande gloire de Dieu et le triomphe de la religion sur l'impiété. Monsieur M, d'après le proverbe connu, avec qui gagnera-t-on, sinon avec ses parents et amis, vendait à tous ces bons amis-là tout ce qu'il avait de plus mauvais, un peu cher, il est vrai, mais pouvait-on marchander avec un homme comme lui? Le moyen de s'aller imaginer qu'il vous pût demander quelque chose au-dessus de ce que sa conscience lui prescrivait, le saint homme. Les habits de mon père lui revenaient toujours à un tiers de plus qu'aux autres. Aussitôt que la junte apostolique eut pris connaissance du fait que mon père venait lui annoncer, presque les larmes aux yeux, ce ne fut plus parmi les fidèles qu'un concert, un chorus de malédictions et d'anathèmes contre le directeur négligent et coupable qui laissait introduire au milieu des élèves conviés à ses soins des livres si dangereux et si impies. Il fut conclu que les lycées, collèges et institutions, qui ne relevaient pas immédiatement de l'autorité ecclésiastique, étaient de vrais foyers de corruption et qu'il n'y avait de bonne éducation à espérer pour un jeune homme que dans un séminaire ou au moins un petit séminaire. Mon père se signa ces mots sacramentels, admira la sentence qui lui parut sans appel, et s'y soumit de tout cœur. Dans ses doctes conférences, il n'opinait jamais que du bonnet, semblable à ces fameux députés qui s'enrouent à crier aux voix ou la clôture, mais qui ne montent jamais à la tribune. M. M. avait un fils au petit séminaire d'Alix, village à 4 lieues de Lyon. Ce fut donc là que l'on résolut de m'envoyer pour commencer l'œuvre de mon salut. Ce fut encore une occasion pour M. M. d'écouler quelque peu de sa marchandise. Il fit entendre à mon père que les couleurs ordinaires, telles que le bleu, le vert, etc., étaient très indécentes dans une pareille maison. Et il lui choisit pour moi, dans son magasin, un drap pour me faire un habillement complet et d'une couleur qu'on ne pouvait regarder sans rire. Et ce fut avec ce bel équipage que je partis pour Alix, en emportant toutefois mon ancien habit d'uniforme du collège de Saint-Chamond, qui me valut bien des tribulations. Quelle maison que ce séminaire d'Alix, quand j'y pense! Jamais coup d'œil aussi triste, aussi hideux, n'avait et n'a depuis frappé mes regards. 10 ou 12 figures humaines, sur près de 400 personnes, tant hommes qu'enfants. Mon cœur se serra en y entrant. Il me sembla que j'allais étouffer, et j'aurais tout à fait perdu courage, sans l'amabilité et les manières engageantes de celui qui devait être mon professeur. C'était M. Reffet de Lusignan. C'est lui seul qui m'a sauvé du découragement et du désespoir pendant l'année que j'ai passée dans ce détestable séjour, et qui m'a paru au moins un demi-siècle. De tous les professeurs que j'ai rencontrés, je n'en ai connu aucun aussi bon, aussi éclairé sur les devoirs de son état. Jamais homme qui ait su aussi bien se faire aimer de ses élèves et leur rendre leurs devoirs faciles. Jamais aussi personne qui leur ait porté autant d'intérêt, et indistinctement à tous. S'il avait quelque affection pour l'un d'eux, motivé par son application, son intelligence ou son caractère, cela ne dégénérait jamais en partialité et personne ne fut avisé, même intérieusement, de lui en faire un reproche. Cet intérêt qu'il portait à ses élèves s'étendait sur tous. Non seulement ce qui avait rapport à leur instruction, mais encore ce qui concernait leur santé, leur bien-être et même leur récréation. Et ces liens d'amitié, de reconnaissance qui lient en quelque sorte le maître et les élèves, il ne les a pas brisés en les quittant. Je l'ai rencontré plusieurs fois depuis sur ma route et je l'ai constamment vu s'intéresser au sort de tous ceux qui avaient étudié sous lui, les suivre d'un œil d'affection dans leur début dans le monde et faire ce qui dépendait de lui pour leur être utile. Malheureusement, sa trop grande confiance dans les hommes l'avait mis hors d'état de me rendre service la dernière fois que je l'ai revu à Paris. Sans cela, j'en serais pas là où j'en suis, ce qui eût sans doute évité bien de la peine et de la douleur, mais car s'il est empressé, aussitôt qu'il a eu connaissance de ma position, de venir m'apporter les consolations de son amitié, qui en tout temps m'a toujours été si précieuse. J'aurai encore à parler de lui à la fin de ses mémoires. À cette époque, M. Reffet était encore jeune, il pouvait avoir tout au plus une vingtaine d'années. Beaucoup de ses élèves étaient plus vieux que lui. Aussi était-il autant notre ami que notre professeur. Sa classe était notre récréation à nous. J'ai eu raison de dire plus haut que sans lui je serais mort d'ennui et de chagrin, car l'ennui a toujours été mon épouvantail. J'ai appris depuis à m'y soustraire dans toute espèce de position, mais je n'avais pas cette ressource. Jusqu'alors, en allant au collège, j'avais très peu regretté la maison paternelle. Par une bonne raison, c'est qu'au collège, j'étais plus heureux que dans ma famille. Mais à Alix, quelle différence! Figure de professeurs atrabilaires, moroses, ascétiques, figure d'élèves stupides, blafardes, cafardes. 4 ou 5 heures au moins par jour d'exercice spirituel, messe, office de la Vierge, méditation, conférence, sermon, prédication furibonde contre tout ce qui respirait, contre tout ce qui ne mettait pas l'état dans l'église. Oui, c'est là que je passais le temps, véritablement le seul malheureux de mon existence. C'est là que ma jeune philosophie est venue échoir pendant quelques mois, malgré Horace que je lisais alors avec tant de plaisir. Et c'était bien fait pour cela, mettez-vous à ma place. Au milieu des ennuis, des dégoûts dont j'étais abreuvé, je n'avais pour moi aucune espèce de compensation. Je ne pouvais adoucir mes peines que par le souvenir de ma famille, par l'idée du bonheur que j'aurais à rentrer dans son sein après ces jours d'épreuves et de souffrances. Cet espoir m'eût soutenu, mais je ne pouvais malheureusement pas me bercer de cette illusion. Souffrir continuellement et souffrir sans espérance d'un avenir plus heureux, ce fut au-dessus de mes forces. Je réfléchis longtemps à ma triste position dans le monde, aux chagrins que j'avais déjà essuyés, à ceux que j'essuyais et à ceux que je devais essuyer encore, et cela sans pouvoir me dire que je l'avais mérité. J'eusse été dans ce cas moins malheureux, car l'injustice dont je me voyais victime faisait bouillonner mon sang et bondir mes artères. Quelquefois, je tombais la nuit dans des convulsions de rage qui auraient bien étonné si on en avait été témoin. Cet état ne pouvait durer, il était trop violent. Peu à peu, mon physique s'affaiblit avec mon moral. J'arrivais à cet état de malaise et d'abattement voisin de la stupeur. C'est la seule époque de ma vie où j'ai été réellement malade, sans que pourtant on puisse s'en apercevoir au premier coup d'œil. L'idée du suicide me vint alors. Plus de 10 fois, j'eus la pensée de mettre un terme à ma misérable existence. Une seule idée m'a retenu. Et quoi, me disais-je dans mes plus fortes crises, je n'ai encore connu aucune jouissance de la vie. Je n'en ai au contraire éprouvé que les peines, et je l'abandonnerai comme un sot. Il est impossible que ma position ne change pas tôt ou tard. Une fois que j'aurai au moins goûté un peu de bonheur, vienne la mort quand elle voudra. Je restai près de 4 mois dans cet état pénible, mais, luttant toujours, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je ne me reconnaissais plus, je n'avais goût à rien, je végétais enfin. Heureusement, le printemps arriva, quelques promenades dans des endroits champêtres et pittoresques, où M. Reffet nous accompagnait, commencèrent un peu à chasser cette humeur noire. Semblable aux autres végétaux, je sentis ma sève se remettre en activité aux doux rayons du soleil de mai. Ce fut une nouvelle secousse. Je me réveillais comme d'un rêve. Ma gaieté, mon esprit caustique revinrent avec la santé. Je fus sauvé et je me retrouvai dans un parfait équilibre physiologique et moral. Depuis lors, je n'ai plus rien éprouvé de semblable. Une fois revenu à mon état d'or naturel, je repris mes méditations et mes observations philosophiques. Je prêtai quelque attention aux sermons que l'on nous récitait. Je dois assurer que, de ce moment-là, eussé-je eu l'esprit le mieux disposé à la dévotion, 9 lignes censurées. Pendant l'espèce de maladie dont je viens de parler, j'avais été plongé dans un engourdissement qui donnait à ma figure cet air de tristesse et d'insignifiance qui était parfaitement d'accord avec la plupart de celles de la maison. Aussi avait-on peu fait attention à moi alors. On avait pris mon air morne et hébété à la chapelle pour de la méditation, et mon silence et mon air pensif pour du recueillement. On n'en avait pas demandé davantage. Je passais dans la foule, mais quelque temps après que je me fusse senti renaître à la vie, force fut bien de s'apercevoir de mon air évaporé, de mes yeux distraits pendant les prières et les offices, et quelquefois même de mon expression de figure, tantôt ennuyée, tantôt sardonique. Dès lors, je me vis en butte à tous les traits de la sainte colère de nos charitables apôtres. Plus d'une fois, je me suis vu l'objet de leurs diatribes et de leurs déclamations. Il est vrai que mon malheureux habit d'uniforme leur offusquait la vue. Quelle foi, quelle religion voulez-vous attendre des jeunes gens qui sortent de ces maisons de perdition? Disait-il hautement en chair, de ces maisons que l'on désigne sous le nom de collèges, et qui ne sont que des écoles de Satan. Quels exemples peuvent nous offrir ceux qui n'ont pas honte de se présenter dans cette sainte maison, revêtue encore de la livrée du démon? Je riais dans ma barbe. Que n'eussent-ils pas ajouté, s'ils eussent eu le motif qui m'avait conduit pour mes péchés au milieu d'eux? Je me gardais bien de leur faire savoir. J'aurais eu peur d'être lapidé. 8 lignes censurées. Dans tous les autres établissements où je m'étais trouvé jusqu'alors, j'avais montré un caractère assez gai, assez liant même. Mon humeur était généralement bienveillante, parce que j'avais trouvé presque toujours des caractères assez en harmonie sous ce rapport avec le mien. Sans avoir précisément des amis, je pouvais compter quelques camarades d'enfance. Mais à Alix, il n'en fut pas de même. Là, toutes les figures me déplaisaient, me repoussaient. Point de ces jovialités du jeune âge, partout un sérieux de glace, des airs tristes et sournois. Aussi, sauf 7 ou 8 élèves de ma classe, Je ne pense pas avoir parlé trois fois à un de ces séminaristes pendant toute l'année que j'y ai passé. Partout ailleurs, j'eusse dû paraître bien maussade. Mais là, on ne me remarquait pas. C'était l'allure ordinaire. Je crois même que beaucoup n'étaient pas fâchés de ma réserve avec eux, car ils me prenaient volontiers, d'après tout ce que les cafards débitaient sur mon compte, pour un véritable suppôt de Lucifer. Je me lassais bientôt d'observer toutes ces figures insignifiantes pour moi, et me laissais aller tout à fait à un autre genre de méditation. C'est dans le courant de cette année que je suis devenu poète, et c'est à Horace que je dois ce goût, qui m'a fait passer des moments bien agréables et peut-être les plus heureux de ma vie. Mais on sent que, dans une maison de ce genre, nos lectures étaient trop bornées pour que je puisse augmenter beaucoup mon instruction. Cependant, ces études n'ont pas été tout à fait perdues pour moi. J'ai dit que la poésie m'avait procuré de grands plaisirs, et qu'on ne pense pourtant pas que je m'y sois livré par amour propre, pour me faire un nom ou me faire remarquer en aucune manière. La meilleure preuve que je puisse apporter de cette assertion, c'est que depuis l'âge de 15 ans jusqu'à ce jour, je me suis constamment occupé de poésie dans quelque position que je me sois vu. J'ai fait considérablement de vers, médiocres, bons, et même quelques-uns excellents, sans vanité. Eh bien, je défie qu'on puisse trouver dans le monde seulement 4 originaux. Je n'en ai pas communiqué 10. Je laissais tout perdre après avoir eu le plaisir de composer, où j'allumais ma pipe avec mes brouillons. Si naguère, j'ai recueilli quelques-unes de mes dernières poésies par l'espérance que l'on m'avait fait concevoir d'en tirer quelque profit, c'est uniquement ce motif qui m'a déterminé, et nullement la gloire littéraire. Si j'ai réclamé contre une usurpation, ce n'est pas encore l'amour-propre qui m'a guidé, mais le mépris et l'indignation et le désir de dévoiler au public les jongleries dont il est la dupe. Au reste, je reviendrai encore sur ce sujet. Cependant, la fin de l'année arrivait. J'avais toujours continué à m'attirer les foudres de l'éloquence de nos petits prédicateurs. J'étais regardé enfin comme une âme déjà damnée. Aussi, lorsqu'au moment des vacances, mon père vint me chercher pour me ramener à Lyon, on l'avertit charitablement de ne pas me renvoyer l'année suivante, attendu que mes principes religieux étaient trop peu en harmonie avec ceux de la maison. Quel affront pour mon père, et cela enfin de M. M, qui était venu avec lui chercher aussi son fils. Mon père voulut me faire de la morale. Je lui répondis nettement qu'il connaissait ma façon de penser, que l'hypocrisie ne me convenait pas, et qu'enfin on m'envoyait dans le séminaire que ceux qui se destinaient à l'état ecclésiastique. Qu'il y avait donc eu tort de m'y mettre, attendu que j'avais jamais eu de pareilles idées. Mes raisonnements fermèrent la bouche de mon père. Il fit contre fortune bon cœur et me ramena à Lyon, sans trop me faire supporter sa mauvaise humeur. Après ces différentes absences, ma mère m'accueillait toujours avec un peu moins d'affection d'année en année. Rien n'était changé dans ses préventions. Mon père, mieux conseillé cette fois par quelques-unes de ses connaissances de commerce, me fit entrer au collège de Lyon en qualité de pensionnaire. On ne voulait pas de moi à la maison. Quant à mon frère, il y avait longtemps qu'il avait quitté ses études sans les avoir terminées. Il ne se livrait plus qu'aux arts d'agrément, le dessin et la musique. Quant à moi, on n'a jamais voulu me donner de maître de cette espèce, et le peu que j'en sais, je l'ai appris après avoir quitté tout à fait la maison paternelle. Je passais 6 mois au collège de Lyon comme pensionnaire. Cette époque-là a laissé très peu de traces dans ma mémoire. Je sais pourtant que je ne m'y déplaisais pas. Au bout de ce temps, il y eut une révolte. justement dans mon quartier d'études. Je ne m'en étais mêlé en rien. On avait prétendu, aux environs du collège, avoir entendu les cris de « Vive la République !» C'était faux, j'en étais sûr, car, sans avoir été acteur, j'avais été témoin. Le lendemain, on fit des exemples. On renvoya une vingtaine d'élèves de notre quartier. Je n'étais pas du nombre. 2 jours après, on écrivit à mon père de venir me chercher. Le proviseur l'engagea à me garder quelque temps à la maison jusqu'à ce que l'effervescence fût tout à fait apaisée, prétendant que ce qu'il en faisait était tout à fait dans mon intérêt, parce que j'avais la tête chaude et que je pouvais me compromettre. C'était un véritable tour de jésuite. Sa résolution était déjà prise dès ce moment. Aussi, lorsqu'au bout de 8 jours, las de m'avoir sous les yeux, mon père voulut me ramener, le proviseur, avec beaucoup de circonvolution, à la manière des enfants d'Ignace, l'engagea à ne pas me remettre comme pensionnaire et à me faire seulement suivre les cours en qualité d'externe. Cela ne faisait pas le compte de mon père et encore moins de ma mère. Aussi va-t-il plusieurs fois à la charge pour pouvoir tirer d'autres paroles du proviseur, qui avait des raisons pour me renvoyer. Mais il ne voulait pas les faire savoir à mon père, parce qu'il aurait fort bien pu lui dire que si c'était pour ce motif qu'il me renvoyait, il n'aurait pas dû attendre si tard. Ce motif-là, je le comprenais déjà, sans en rien dire. J'en fus certain quelque temps après. Nous avions pour maître de quartier ce qu'on appelle, je crois, à Paris, chien de cour, un homme composé de tous les vices. Il a été depuis renvoyé pour vol, si je ne me trompe, mais ce n'est pas de cela qu'il est en question. Cet individu était adonné aux goûts les plus hideux. Il n'avait pas honte d'abuser de l'inexpérience de quelques jeunes gens trop simples. Un jour, je l'avais surpris en flagrant délit. Et depuis ce jour-là, il chercha à se venger et à me faire envoyer pour se débarrasser de ma présence, mais sans pourtant se mettre en jeu lui-même de crainte que je ne dévoilasse son infâme conduite. Un jeudi, étant allé voir mes parents avant de rentrer au collège, j'achetais d'un bouquiniste les Galeries du Palais-Royal, livre plat et insignifiant, qui n'avait certainement rien d'indécent, si ce n'est dans les gravures, peut-être encore, je dois en convenir que je m'en souviens guère. Ce livre dépassant un peu de ma poche dans un moment de récréation, notre chien de cour s'approcha de moi et me l'enleva. Après avoir lu le titre, il voulut me faire des reproches. Je lui répondis de manière à lui laisser voir ce que je pensais de lui et le danger qu'il courait en faisant du bruit pour cette affaire. Il emporta ce livre, je n'en entendis plus parler. Seulement, à quelques jours de là, étant allé chez le proviseur, je m'aperçus à quelques mots assez embrouillés qu'il me tint, qu'il avait été instruit. Et c'était en effet pour cela qu'il me renvoyait. Quelque temps après avoir été installé comme externe, je pris sur moi de lui demander une explication. Et je fis si bien que je l'amenai à me confesser que c'était en effet au maître de quartier que je devais mon exclusion. Je ne fus pas ingrat, comme on le pense, et je déclarai ce que j'avais vu, mais je n'avais pas de preuves à apporter, d'ailleurs. C'était une affaire trop délicate pour l'ébruiter. Il n'en résulte pas moins que voilà la troisième fois que je suis congédié, ce qui viendrait à l'appui d'une insertion d'un journal qui n'en avait, je pense, accusé qu'une. On voit que je le justifie complètement du titre d'imposteur. Oh, ce n'est pas de ma louange, il est vrai, mais que voulez-vous? J'ai promis de dire la vérité.